Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être là aussi nombreux en des circonstances aussi pénibles. Ça prouve au moins que nous sommes debout. Alors, j'ai proposé à M. Fournier de parler de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Si j'avais su. Je pensais faire ça en une conférence, youpi youpi. Or, c'est un sujet extrêmement dense, complexe, qui mérite d'aller au-delà de Wikipédia. Et bien, ce ne sera pas une conférence, mais ce sera deux conférences. J'ai scindé la présentation de Talleyrand en deux parties, celle que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire de sa naissance au congrès de Vienne, 1814, et l'année prochaine, une deuxième partie allant de la seconde restauration jusqu'à sa mort. Et il y en a autant à dire avant qu'après. Alors, vous voyez qu'il a vécu 84 ans, donc on va s'intéresser à la première moitié. Alors, on va commencer par le début. Ça ne marche pas. D'accord, ok, bon. On va commencer. Alors, déjà, il m'est arrivé un petit miracle à Beaune. Il n'y a pas que Monge à Beaune, il y a aussi un marché aux puces tous les samedis matins sur la place Carnot. Et Vlatipa, que je vois quelques jolis ouvrages, les mémoires de Talleyrand et les correspondances de Talleyrand. Alors, j'ai négocié, j'ai réussi à avoir un bon prix, je me suis plongé là-dedans. Et du coup, ça a augmenté ma somme de travail, puisque je peux approcher un peu Talleyrand de par l'intérieur, de par lui-même. Et le préambule de ses mémoires, et puis finalement, je l'ai mis en préambule de cette conférence par les trois phrases que vous voyez ici. De tous les gouvernements que j'ai servis, il n'y en a aucun de qui j'ai reçu plus que je ne lui ai donné. Alors, on voit toujours Talleyrand comme un opportuniste se gonflant les poches, etc. C'est pas faux. Mais il a quand même des raisons pour avoir eu la carrière qu'il a eue. Je n'ai abandonné aucun régime qu'il se fût abandonné lui-même. Et là, ça correspond exactement à ce que je pense de Talleyrand. Ce n'est pas une personne girouette qui a changé au gré des vents. C'est une personne qui s'est fait très tôt une idée politique et qui a quitté les gouvernements quand ceux-ci ne correspondaient plus à ses vues politiques à lui. Donc ce n'est pas lui qui a changé, ce sont les gouvernements qui ont changé. Je ne cite pas Edgar Faure pour autant. Je n'ai mis les intérêts d'aucun parti, ni les miens propres, ni ceux des miens, en balance avec les vrais intérêts de la France, qui d'ailleurs ne sont, dans mon opinion, jamais en opposition avec les vrais intérêts de l'Europe. Et ça, cette phrase-là, je la trouve très intéressante parce qu'également, j'ai la conviction que Talleyrand est un des premiers à avoir conscience de l'identité européenne. Et il a œuvré, bien sûr, pour les intérêts de la France, mais aussi pour ceux de l'Europe, en mettant la France, naturellement, en avant. La France et l'Europe, l'Europe pour la France pour l'Europe. Ah oui, c'est vrai qu'ici, aujourd'hui, c'est là. Alors, il est né, bien sûr, le 2 février, jour de la Chandeleur, en 1754. Alors, il est issu d'une longue lignée aristocratique qui remonterait à Adalbert, comte de Périgord et vassal du Capet. Ce sera confirmé un peu plus tard par des lettres patentes, un peu plus tard, c'est au XVIIe siècle. Toujours est-il qu'au début, c'est simplement comte de Périgord, et à l'époque de Pépin II, il y a eu une bataille à Poitiers, encore une, et le comte de Périgord a fendu les rangs ennemis avec son épée. Il a reçu de Pépin II le surnom de Taillefer, et c'est devenu la maison de Taillefer Périgord qui, un peu plus tard, s'est transformé en taillerant, qui taille les rangs. C'est pour ça que certaines personnes puristes ne disent pas Talleyrand, mais Taillerand, hein, puisque un de ses ancêtres a taillé les rangs des ennemis à Poitiers. Son père, c'est Charles Daniel, chevalier de Saint-Michel, lieutenant général du royaume, donc de Louis XV, et sa mère, c'est Alexandrine de Damas-d'Antille. Mais surtout, il a un oncle qui s'appelle Alexandre Angélique. Il est d'abord coadjuteur de Reims, il deviendra après archevêque de Reims, il accédera au cardinalat et terminera comme archevêque de Paris. Alors ce personnage est extrêmement important dans l'histoire de Charles Maurice. Alors, pour l'annexe, parmi ses ancêtres, Étienne Marcel, mais aussi Jean-Baptiste Colbert, mais ceux-là n'ont aucune influence dans sa vie. Ah, petite histoire. Donc nous sommes dans une grande, sans argent certes, mais une grande famille aristocratique française, et à cette époque, ce n'est pas les parents qui s'occupent de l'éducation des enfants. Les mariages sont des contrats entre deux familles pour sauver l'héritage, et les enfants sont les conséquences du contrat pour sauver l'héritage. On ne s'occupe pas des enfants, ce qui fait que le petit Charles Maurice est dès sa naissance confié à une nourrice. Alors, il naît avec une petite maladie génétique qu'on appelle la maladie de Marfan, et il a un pied beau. Alors, dire comme ça que l'on naît avec une tare, ce n'est pas glorieux. Donc, dans ses mémoires, Charles Maurice va raconter qu'à l'âge de 4 ans, sa nourrice le pose sur une commode, l'oublie sur la commode, il est tombé de la commode, il s'est tordu le pied, la nourrice, de peur d'être licenciée, n'a rien dit, n'a pas été soignée, c'est comme ça qu'est apparu son pied bon. Bien, c'est mieux. Mais néanmoins, c'est une grande importance, c'est que pour être l'aîné de la famille, il faut être parfait. J'en sais quelque chose puisque je suis le cadet. Et donc il va être déchu de ses droits d'aînesse, qui va dire donc privé de son droit d'héritage, etc. Pas de carrière militaire, pas le droit d'être dans l'armée, etc. Et on ne sait pas trop quoi faire de lui. C'est là que son oncle de Reims va être très utile. À l'âge de 4 ans, il va quitter sa nourrice et elle va être envoyée chez Madame de Chalet, donc dans le Périgord. C'est sa bisaïeule, son arrière-grand-mère. Et là, il est pour la première fois aimé. Et Madame de Chalet est une aristocrate, vieux jeu, qui ne se considère pas au-dessus des autres, mais que dans son territoire, elle est au service des autres. Et elle s'occupe beaucoup des pauvres. Elle va les pauvres de la paroisse, les ceci, les cela. Elle emmène le petit Charles Maurice. Et le petit Charles Maurice va avoir conscience du peuple, conscience des misères du peuple, des besoins du peuple, des aspirations du peuple, etc. Il apprend tout ça par cette dame. Madame de Chalet, en plus, accueille toujours les gens avec bonté, avec sourire, toujours avec un petit mot gentil, etc. C'est la Lady Di de l'époque, pour son petit territoire. Et ça va beaucoup impressionner le jeune Charles Maurice, qui va garder tout un état d'esprit inculqué par Madame de Chalet. L'âge avançant, il quitte sa bisaïeule, il a 8 ans, et il est mis au collège d'Harcourt à Paris. Donc aujourd'hui, c'est le lycée Saint-Louis. Et il va commencer à avoir des petits collègues de lycée. Il va se lier de quelques amitiés. Deux, entre autres, qui vont être très utiles par la suite. Monsieur de Choiseul. Alors, le fils, hein, pas le ministre de Louis XV, le fils du ministre de Louis XV. Et monsieur de Caulaincourt, connu par sa station de métro aujourd'hui à Paris, dans le 18e. Voilà. Donc il va faire ses études, ma foi, d'une manière peu assidue, mais enfin bon, il faut bien être là, puisqu'il ne peut pas être ailleurs. Et à l'âge de 15 ans, il est envoyé pendant un an à Reims auprès de son oncle, donc Alexandre Angélique. Oui, Angélique est également un prénom masculin. Les hommes aussi sont parfois angéliques, même si les dames en doutent. Et il va rester un an auprès de son oncle, qui va lui faire comprendre les conséquences de son pied bot, donc pas le droit de faire l'armée, etc., etc. Il ne lui reste plus que faire la carrière ecclésiastique. Alors Charles Maurice, il n'est pas très, très, très attiré par l'ordre, mais plutôt par le désordre. Et finalement, au bout d'un an, il finit par accepter les instances de son oncle et il repart à Paris où il rentre au séminaire de Saint-Sulpice. Alors, les séminaires existent depuis peu de temps, hein, et donc... Il est tout à fait au début de cette grande institution que sera qu'est le séminaire de Saint-Sulpice. Alors, il va faire des études sans beaucoup, 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 beaucoup d'empressement. Néanmoins, comme l'enseignement est de qualité, il va s'ouvrir l'esprit en découvrant les grands historiens, la vie des hommes d'État, les moralistes, quelques poètes, les récits de voyage. Et puis, comme je dis pudiquement, bien d'autres choses encore grâce à une actrice de la Comédie française. Voilà, voilà, voilà. Et il arrive en 1774, il reçoit les ordres mineurs. Un an plus tard, il est ordonné sous-diacre, donc il rentre dans les ordres majeurs. Et c'est à ce titre qu'il va assister auprès de son oncle au sacre de Louis XVI. Son père, d'ailleurs, en tant que lieutenant général du royaume, est ce qu'on appelle l'otage de la Sainte Ampoule. Pour savoir ce que c'est, rappelez-vous la conférence sur les sacres. Sinon, je reviens la donner. La même année, il faut dire qu'il a un oncle qui est bien placé, coadjuteur cet évêque avec droit de succession. Hein, c'est-à-dire qu'on attend que l'autre décède pour prendre sa place. Hein, voilà. Et donc, ça veut dire que l'autre, il est en train de... Voilà. Et donc, c'est le coadjuteur qui aurait été le patron. Donc, ça permet, grâce à son oncle, de devenir chanoine de la cathédrale de Reims. Il n'est que sous-diacre. Néanmoins, il est chanoine et abbé commendataire de Saint-Denis de Reims, ce qui lui donne des revenus appréciables, surtout à cet âge. Et puis surtout, il va être nommé par la province de Reims député du clergé et l'assemblée du clergé va l'élire agent général du clergé. L'agent général du clergé, c'est celui qui est chargé de représenter auprès du roi les intérêts de l'Église en ce qui concerne les recettes, l'argent, la gestion. C'est pas le trésorier, mais c'est le curateur des biens de l'Église. Voilà. C'est un poste très important et parmi cela, il doit maintenir tous les privilèges de l'Église qui sont à l'époque extrêmement nombreux. Et il rentre à Paris, il rentre à la Sorbonne où il va préparer une belle licence de théologie qu'il va faire en 3 ans. Il va obtenir d'ailleurs cette licence non pas par ses mérites universitaires, mais un petit peu par les mérites de son oncle, si vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout, ça lui permet de fréquenter les salons parisiens et de rencontrer donc quelques personnes importantes, en particulier Voltaire, qui va prédire à ce jeune homme un grand avenir. Il y a plusieurs conflits, donc il va avoir à défendre les intérêts de l'Église, un peu comme avocat, si vous voulez, il va se faire remarquer, et même très bien remarquer. On arrive en 79, il va être ordonné prêtre, sans passer par le diaconat, directement de sous-diacre à la prêtrise, et il est nommé immédiatement vicaire général de Reims, dont le tonton est devenu l'évêque, en titre. Voilà. Il reste à Paris, néanmoins, se lie d'amitié avec Mirabeau, mais aussi avec Monsieur de Calonne, qui est un ministre de Louis XVI, et qui n'ont pas très aimé, parce qu'il va, il a comme idée de rénover les finances du royaume, de faire une politique fiscale. Voilà. Alors, il n'est pas très aimé, non pas par le peuple, non, par l'aristocratie. Parce qu'évidemment, réforme fiscale dit atteinte aux privilèges des riches. Voilà. Et donc, il va être même rédacteur, un des rédacteurs, avec un S, s'il vous plaît, au plan de Calonne pour réformer les finances du royaume. Donc, il commence déjà à prendre sa place. Alors, normalement, il devrait devenir rapidement évêque, mais on ne peut pas dire que sa vie privée soit particulièrement exemplaire, ce qui fait que ça traîne un petit peu pour arriver à l'épiscopat. Son père commence à arriver en fin de vie, à bout de souffle, et il intervient auprès de Louis XVI, quelques jours avant sa mort, et il obtient de Louis XVI que son fils soit nommé évêque, et il ne va pas être n'importe quel évêque, puisqu'il va être nommé évêque d'Autun. Et en le nommant évêque d'Autun, Louis XVI a dit « ça le calmera ». Alors, évêque d'Autun, ce n'est pas de la petite bière, comme on dirait aujourd'hui. Évêque d'Autun, vous savez que dans la hiérarchie de l'Église française, enfin, avant Vatican II, c'est le deuxième évêché de France en hiérarchie. Le premier évêché de France, c'est Lyon, primat des Gaules, et le second évêché de France, c'est l'évêque d'Autun. Et être évêque d'Autun, ça veut dire de facto successeur de l'archevêque de Lyon. C'est l'étape avant de devenir archevêque de Lyon, primat des Gaules. Tout simplement parce que dans la fondation des évêchés de France, le premier fondé en 130, c'est Lyon, le deuxième en 180, c'est Autun. Et puis, en même temps, l'évêque d'Autun est le président des États de Bourgogne. Et donc, c'est quand même un poste assez honorable. Et puis, comme il a besoin un petit peu d'argent, il reçoit aussi le bénéfice de l'abbaye royale de Selles-sur-Belle. Comme ça, disons qu'il est bien établi en prestige et en argent. Néanmoins, il ne va pas se presser pour arriver à Autun. Vous voyez, il était nommé le 2 novembre 88, il va arriver en mars 89 à Autun. C'est le moment où le roi a convoqué les États généraux. Et alors, il arrive juste pour se faire élire député aux États généraux. Alors, député du clergé, bien entendu, puisqu'il est évêque. Alors, il va avoir une idée géniale. Il y a, pas loin d'Autun, une ville qui s'appelle Le Creusot, dans laquelle il y avait une cristallerie, la cristallerie de la Reine. Alors, il va faire par la cristallerie de la Reine du Creusot, des calices en cristal, qu'il va offrir à tous les curés de son diocèse, les incitant à voter pour lui aux États généraux. Non, ce n'est pas de la corruption, c'est simplement histoire de se faire connaître. Hein. Il venait tout juste d'arriver. Et ça marche. Ça marche puisqu'il est élu aux États généraux. Et le 12 avril au matin, le jour de Pâques, il ne va même pas dire la messe dans la cathédrale d'Autun. Il fait ses bagages, il rentre à Paris. Parce que le 5 mai, vous voyez, il va quand même arriver un petit peu en avance, c'est l'ouverture des États généraux. Et nous voilà dans une autre étape de sa vie. Alors, déjà, il est élu quand même député du clergé. Mais se rappelant un petit peu les enseignements de sa bisaïeule, Madame de Chalais, il va quitter le... Vous savez qu'il y a trois ordres à l'époque, hein, l'ordre du clergé, l'ordre de la noblesse et le tiers-état, le vulgum pecus. Et en plus, le clergé est le premier en honneur, en hiérarchie. Eh bien, Talleyrand quitte, vous voyez, le 26 juin, il quitte l'ordre du clergé pour se rallier à l'ordre du tiers-état. Premier, il rentre dans le peuple, etc. Enfin, l'Église ne va pas trop apprécier. Enfin, bon. Et ça lui permet, le 14 juillet 1789, alors il se passe des petites bricoles du côté de la Bastille, mais c'est pas le plus important ce jour-là, c'est qu'il est nommé, on se met en place un comité de constitution de l'Assemblée nationale, et le premier nommé à ce comité, c'est lui. C'est-à-dire que le fait d'avoir passé d'un ordre à l'autre l'avait fait mettre en bonne position, et c'est le tiers-État qui est majoritaire qui donc le place le premier au comité de constitution de l'Assemblée nationale. On va commencer à établir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est lui qui rédige l'article 6. Alors je ne me suis pas épargné le plaisir de vous l'écrire. Tout rapport avec des personnes existantes aujourd'hui est fortuite. La loi est l'expression de la volonté générale. C'est du Talleyrand, hein, marqué dans le marbre maintenant. L'article 6, il est là. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Voilà, voilà, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'arrive une étape importante dans le désamour de Talleyrand par certains, en particulier le clergé, car les caisses de l'État, c'est pour ça qu'on a convoqué les États généraux, sont vides. La réforme de Calonne n'a pas fonctionné. Il faut de l'argent. Et Talleyrand a une idée géniale. On va nationaliser les biens du clergé. C'est là où il y a le plus d'argent qui ne sert à rien. C'est comme si on disait en Grèce qu'il y a des soucis, on va utiliser l'argent de l'Église orthodoxe. Enfin, c'est impensable pour le clergé. Et ça, c'est une proposition de Talleyrand. Et il argue ceci, c'est que le clergé n'est pas propriétaire à l'instar des autres propriétaires, puisque les biens dont il jouit et dont il ne peut disposer ont été donnés, non pour l'intérêt des personnes, mais pour le service des fonctions. Donc finalement, ce n'est pas pour l'entretien des prêtres, mais c'est pour l'entretien du peuple. Donc, on peut nationaliser tout cela. Mirabeau, il est bien copain avec Mirabeau aussi, fait voter le projet le 2 novembre 89, et à ce moment-là, lui qui était ancien agent général du clergé, devient pour l'Église l'apostat. Ah, puis alors attendez, il va faire encore quelque chose de pire aux yeux de l'Église. Figurez-vous que le 28 janvier 90, il propose, et il obtient d'ailleurs, d'accorder le statut de citoyen aux Juifs. C'est dur, hein, pour l'époque. C'est là où on voit tout l'enseignement que lui a donné Madame de Chalais. L'Assemblée constituante va se mettre en place, et le 16 février 90, il en devient le président. Il est élu avec une belle majorité, puisqu'il est élu par 373 voix contre 125 à son challenger, Seyès. Seyès, c'est celui qui a fait les réglures sur nos cahiers d'écoliers. Oh, les Lyonnais sont terribles, les Lyonnais. Figurez-vous que le 30 mai 90, les Lyonnais ont l'idée sur l'esplanade des Brotteaux, là où maintenant il y a non plus une gare de chemin de fer, mais des brasseries de Bocuse. Ils ont les idées de faire, les Lyonnais, une grande fête que vous rappelez la fête de la Fédération pour célébrer un petit peu la Nouvelle-France. Et du coup, ça donne une idée à M. de Talleyrand, qui est donc président de l'Assemblée constituante, de faire une grande fête à Paris, un peu similaire, en vue de célébrer dignement la réconciliation et l'unité des Français. Son projet, donc du 7 juin 1790, est accepté, et on va fixer au 14 juillet 1790 cette célèbre fête qui aura lieu au Champ de Mars, et qu'on appelle la fête de la nation. Alors c'est une fête extrêmement importante, même pour nous aujourd'hui encore. Car on réunit donc une foule immense sur le champ de Mars. Vous en voyez ici une représentation. La cérémonie commence par une messe, célébrée par M. de Talleyrand lui-même. Ensuite arrive Lafayette, qui, au nom de la nation, qui va prêter, serment à la nation au nom des gardes nationaux, des gardes fédérés. Ensuite, Talleyrand, en tant que président de l'Assemblée, va prêter le serment à la nation au nom des députés et des électeurs. Enfin, le roi lui-même va prêter serment à la nation, un serment de fidélité aux lois nouvelles, et la reine, au nom du dauphin, donc le futur roi, va confirmer ce serment. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que les Français ne sont plus sujets d'un roi, mais citoyens d'une nation. Ça va se terminer par un grand Te Deum, et le 6 juillet 1880, Benjamin Raspail va obtenir que cette fête du 14 juillet 1790 soit la fête nationale. Si certaines personnes croient, ce sont les Américains qui appellent le 14 juillet le Bastille Day, nous ne fêtons pas le 14 juillet la prise de la Bastille, mais nous fêtons la fête de la nation, où, pour la première fois, nous sommes citoyens d'une nation. Et ça, c'est une idée de Talleyrand. Ah, ben là, maintenant, ça va commencer à se gâter. La fameuse nuit du 4 août, la nuit du 4 août 89, le clergé disparaît en tant que premier ordre en dignité de la société de l'Ancien Régime, et puis on va se mettre à rédiger une constitution civile du clergé. Dans cette constitution civile du clergé, il y a un seul diocèse par département. On vient de créer les départements et l'on décide qu'un département, c'est un diocèse. De ce fait, les évêchés passent de 130 à 83. Il n'y a plus Embrun, par exemple, ou Condon, ou les, voilà. Il n'y a plus que 83, puisqu'il y a 83 départements à l'époque. Et les diocèses sont regroupés en 10 arrondissements métropolitains. Le métropolitain, c'est l'archevêque. Alors qu'avant, il y avait 14 provinces ecclésiastiques. Tous les offices ecclésiastiques, les chanoines, les prébendiers, les chapelains, et surtout tous les offices sans charge d'armes sont supprimés. C'est pas tout. Les évêques sont élus. Ils ne sont plus nommés par le roi. Ils sont élus par les électeurs du département, et les curés des paroisses sont élus par les électeurs du district, que ces électeurs soient catholiques ou non. Pour l'installation donc sacerdotale ou épiscopale, ce n'est plus par le pape, mais soit par le métropolitain ou par le plus ancien des évêques en titre. Donc ça ne plaît pas tellement à Pie VI, qui va condamner cette constitution. Tous les évêques doivent, au nom de leur clerc, prêter serment. Alors, vous voyez ici une petite assiette, c'est pas du charol, où on voit, je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution, avec un prêtre qui jure sur, non pas l'Évangile, mais sur la Constitution. Ce qu'a fait Talleyrand impressionne beaucoup le roi de Suède, qui s'appelle Gustave III, et bien qu'il soit protestant d'une part et que Pie VI d'autre part soit complètement hostile à ceci, il obtient quand même le chapeau de cardinal pour Talleyrand. Mais il ne sera jamais créé cardinal, car le 8 décembre 1790, Talleyrand va prêter serment à la Constitution, et ça, c'est la rupture avec Rome. Il ne sera jamais cardinal. Voilà. Il s'en fiche. Il s'en fiche parce qu'il est devenu administrateur du département de Paris. Donc pour cela, pour être tranquille, s'occuper de sa nouvelle fonction, il démissionne de son évêché d'Autun. Voilà, voilà, voilà. L'Europe tout entière est en train de se liguer contre la France. Le ministère des Feuillants, voulant, non pas la guerre, mais plutôt la paix, va demander à Talleyrand d'effectuer deux voyages à Londres pour obtenir la neutralité britannique. Alors, les grandes puissances de l'Europe de l'époque, c'est la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et évidemment, il vaut mieux avoir les gens un petit peu séparés, surtout que tous les aristocrates se sont réfugiés plutôt sur l'Autriche, sur l'Allemagne, etc. Donc si on peut obtenir que les Anglais restent tranquilles, c'est toujours ça de prix. Et donc Talleyrand va obtenir cela. Il rentre à Paris, il va démissionner de son poste d'administrateur, parce que à la suite du 10 août, il se rend compte qu'on est en train d'arriver à grands pas sur ce qu'on va appeler la terreur, et qu'il est peut-être pas très sain de rester en France, et on veut garder la tête sur les épaules, c'est peut-être plus sûr qu'elle soit à côté, et comme il n'a aucune vocation à être Saint-Denis ou Sainte-Solange, il préfère demander à Danton un ordre de mission pour retourner en Angleterre. Vous savez, c'est l'époque, à ce moment-là, où de grands savants français sont en train d'inventer le maître. Voilà, le maître, et puis tout un système de poids et mesure qu'on va appeler le kilogramme, le litre, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ces unités-là. Et il se trouve que, bon, ben, personne n'a cela, et comme les Anglais ont une certaine influence, Talleyrand obtient de Danton de retourner en Grande-Bretagne pour négocier la mise en place d'un système commun de poids et mesures. Il semblerait que là, au moins, il n'a pas réussi. Enfin, tout au moins avec les Anglais. Mais surtout, il n'est plus en France, et ce qui lui permettra plus tard de pouvoir revenir en disant « Moi, je ne suis pas un exilé, puisque je suis parti avec un ordre de mission, hein, avec un passeport, donc moi, je ne me suis pas enfui, j'étais au boulot ailleurs. » Ah ben oui. Bon, les Anglais commencent à en avoir assez de tous ces Français qui débarquent. Vous rendez compte tous les problèmes qu'il y a en France, il y a des terroristes, la terreur. Beaucoup de gens quittent la France et vont se réfugier à Londres. Et comme à l'époque, il n'y a pas le tunnel sous la Manche, c'est beaucoup plus facile de prendre des bateaux pour traverser. Et il y a un afflux de Français en Grande-Bretagne, c'est insoutenable. Les Anglais ne veulent pas être envahis, même pour accueillir des émigrés. Et donc, il va y avoir un édit qui s'appelle l'Alien Bill, Alien, c'est pas un film d'horreur, hein. Alien, ça veut dire l'étranger, la loi sur les étrangers, je dirais plutôt la loi contre les étrangers. Et donc, tous les étrangers sont expulsés de Grande-Bretagne, Talleyrand compris. Lui, il rentre pas en France, il va partir aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il va séjourner 2 ans aux États-Unis, à New York et en Pennsylvanie, et à Philadelphie. Philadelphie qui est à l'époque la capitale des États-Unis. Les États-Unis ne sont plus une colonie anglaise depuis une douzaine d'années seulement. Et Talleyrand va découvrir les États-Unis et il va faire quelques affaires, il va se lancer dans le commerce du bois. Mais surtout, ces 2 années aux États-Unis sont extrêmement importantes pour la future politique de Talleyrand. Il se rend compte que les États-Unis, c'est quand même tout à fait autre chose, c'est plus qu'un nouveau monde. Il y a des choses un peu spéciales aux États-Unis. Il se rend compte que les Américains ne sont pas trop intéressés par l'agriculture, mais beaucoup plus par le commerce. Et Talleyrand en est un petit peu gêné parce que pour Talleyrand, l'agriculture est quelque chose qui vous enracine quelque part. Quand vous êtes dans l'agriculture, vous êtes sur un territoire, vous êtes sur un terroir et vous vous enracinez. Et puis surtout par l'agriculture, vous êtes soumis au rythme des saisons, des bonnes années, des mauvaises années, vous suivez le temps qui passe, etc., et vous prenez une certaine philosophie de la vie, vous trouvez dans la nature les bonnes choses, mais aussi les mauvaises, mais vous apprenez à apprécier d'autant plus les bonnes choses, ça vous apporte un art de vivre, un style de vie, un bonheur de vivre. Le commerce, en revanche, c'est tout à fait différent, puisque le commerce, lui, veut aller de partout, il ne s'enracine pas, il envahit. Le commerce n'est pas, comme l'agriculture, au service d'un territoire, c'est au service de l'argent et d'amasser des biens plutôt que de cultiver les biens. Et il se rend compte que les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Et c'est amusant, enfin, c'est une façon de parler. Moi, il y a quelques années de cela, du temps où j'étais jeune et beau, maintenant je vous rassure, il n'y a plus Chloé. J'étais aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis, j'allais passer mes vacances au Canada. Et là, je me suis rendu compte, auparavant j'avais travaillé en Allemagne, j'étais allé en Suède, j'étais allé dans différents pays. Je me suis rendu compte, quand j'étais en train de travailler aux États-Unis, que l'Europe, il y avait moins de différence entre un Andalou et un Suédois, un Irlandais et un Grec, qu'il y en a entre l'Europe tout entière et les États-Unis en particulier. Que les États-Unis, c'est un monde à part, et que l'Europe, c'est également tout un monde à part. Et Talleyrand a exactement, 2 siècles avant moi, cette même impression. Et ça va complètement changer sa vision du monde, et en particulier sa vision de l'Europe. C'est là où il prend conscience que l'Europe est une entité, est un tout, est une civilisation. Alors il va rentrer au bout de 30 mois, parce que maintenant c'est la convention, et puis un décret l'autorise à rentrer, d'autant plus qu'il n'a jamais été émigré, il avait un ordre de mission. Et donc, il arrive à Paris, il va être nommé à l'Académie des sciences politiques et morales, et il va donner 2 conférences qui vont faire grande impression sur les gens de son époque. La première conférence, tout ça c'est issu directement de ses réflexions sur les États-Unis. Première réflexion, c'est sur les relations commerciales entre l'Angleterre et les États-Unis. Et il démontre dans sa première conférence que la Grande-Bretagne ne sera jamais un membre de l'Europe, que la Grande-Bretagne est plus intéressée par les États-Unis et que dans l'esprit de la Grande-Bretagne, les États-Unis sont toujours une colonie britannique et que le commerce est la façon que les Britanniques, par les États-Unis, peuvent avoir de rayonner sur le monde tout entier. C'est la première conférence. La deuxième conférence, disons qu'elle va inspirer un peu plus tard Napoléon III, la deuxième conférence, c'est qu'il démontre que d'avoir des colonies, c'est important. La Grande-Bretagne a des colonies, et dans l'esprit des Britanniques, les États-Unis sont une colonie, toujours. Il démontre que d'avoir des colonies, c'est important, surtout après une révolution, où les esprits sont un petit peu en effervescence, que de faire la conquête des colonies et la mise en place des relations avec les colonies, ça permet de canaliser les forces vives de la nation qui reste de partir à volo, de les canaliser et d'offrir aux agitateurs et aux mécontents de vastes territoires à coloniser et surtout à se pacifier eux-mêmes avant de pacifier les autres. Là-dessus, il rentre dans tous les salons parisien, en particulier le grand salon de l'époque, celui de Madame de Staël, où il va rencontrer Barras, qui est un des directeurs du directoire. Et ça lui permet, le 18 juillet 1797, de devenir ministre des Relations extérieures. Madame de Staël est pour beaucoup dans cette nomination. Donc, le voilà ministre des Relations extérieures, et par voie de conséquence, il entre en relation avec un jeune général qui s'appelle Bonaparte, qui a fait une campagne victorieuse en Italie et qui est en train de préparer et de signer le traité de Campo Formio. Talleyrand, la première chose qu'il fait, dès sa nomination comme ministre des Affaires extérieures, c'est d'écrire à Bonaparte pour lui dire qu'il se met à son service. Et Bonaparte est tout content. Il écrit au directoire que le choix de Talleyrand fait honneur à son discernement. Donc Bonaparte aura une grande correspondance avec Talleyrand. Donc Talleyrand commence déjà à rentrer un petit peu dans les négociations du traité de Campo Formio, discrètement, tout en disant que c'est Bonaparte qui fait tout. Par derrière, il commence à conseiller Bonaparte. Et puis, ça a pu permettre de discuter par voie de correspondance. À l'époque, on n'ouvre pas les lettres encore. Hein. Il n'y a pas la DGS, comme on appelle, le renseignement généraux. Hein. Oui, mais enfin, donc ça va encore à peu près. Et Bonaparte lui dit que, ma foi, le directoire est un peu mou, que ça va pas très bien, qu'il faudrait que la France ait un exécutif fort, enfin quelque chose qui ait du sens. Hein. Voilà, voilà, voilà. Pendant ce temps-là, Talleyrand, lui, s'occupe joyeusement. Il rencontre tout simplement l'épouse de son prédécesseur au ministère. Son prédécesseur s'appelait Monsieur Delacroix. Donc il va fréquenter Madame Delacroix et, paraît-il, c'est à cette occasion-là qu'il serait devenu le père de Eugène Delacroix. Voilà. Enfin bon, c'est des on-dit, vous savez. Il ne faut pas croire tout ce qui est dans les journaux. Voilà, on n'ouvre pas les lettres. Donc c'est le traité de Campo-Formio. Bonaparte rentre à Paris. Nous sommes le 3 janvier 98 et Talleyrand donne une fête somptueuse. Oui, il a une petite résidence à Paris, Talleyrand, privée. Hein, c'est pas un lieu public, c'est privé. C'est à lui. Ça s'appelle l'hôtel de Matignon. Pas si vous connaissez le nom. Voilà. Ben oui, il a réussi à acheter l'hôtel de Matignon. Voilà. Donc il donne une fête somptueuse pour en l'honneur évidemment de Bonaparte. Et puis ça lui permet donc de discuter avec lui et de dire ben voilà, on pourrait peut-être mettre autre chose, ou plutôt quelqu'un, à la place du directoire. Hein, pourquoi pas? Et Bonaparte se dit, oui, pourquoi pas moi? Par exemple, oui. Mais, lui dit Monsieur de Talleyrand, si vous restez à Paris, et que vous complotiez, ça risque de se savoir. On n'ouvre pas les lettres. Mais si vous aviez la bonne idée de quitter Paris pour une nouvelle campagne. Je vous propose d'aller faire campagne, par exemple, en Égypte. C'est très important parce que c'est un passage important sur la route des Indes. Il y a les Anglais, donc on pourrait peut-être libérer un petit peu l'Égypte des Ottomans et puis se faire bien voir d'eux et bloquer ainsi les Anglais vers l'Est. Et pendant que vous êtes en Égypte, moi, je me charge de faire le nécessaire pour vous préparer le terrain. Donc, Bonaparte trouve l'idée excellente et il va partir faire une campagne en Égypte. Et Talleyrand lui dit, en même temps, on peut quand même essayer de savoir un peu ce qui se passe là-bas, partez avec quelques savants, et puis que cette campagne n'apparaissent pas uniquement une campagne militaire, mais une campagne de découverte, d'ethnologie, culturelle, etc., pour montrer que la France est une grande nation et non pas une nation belligérante. Donc voilà, c'est la campagne d'Italie. Et ben pendant d'Égypte, pardon. Et pendant ce temps-là, ben Bonaparte, avec Seyès et Joubert, commence à sabonner gentiment la planche du directoire. Le directoire est renversé et prétextant donc, parce que Talleyrand a quand même pas mal d'ennemis, en particulier dans les journalistes, vous vous rendez compte, les journalistes, ils n'y comprennent rien. Ils sont en train de faire une campagne contre lui, donc il se sert de ce prétexte avant le renversement du directoire pour démissionner. Comme ça, il a les coudées franches. Bonaparte rentre en vitesse, on l'a dit, dépêche-toi de revenir. Donc Bonaparte va confier, il confie le Kléber, hein, c'est bien ça. Il confie. Ah oui, donc c'est bien à Kléber. J'hésitais entre Kléber et Marceau. C'est à Kléber. Il va confier l'armée d'Égypte et il rentre juste à temps pour le 18 Brumaire faire le coup d'État. Et ben ma foi, il faut que on renverse le directoire, il faut que Barras, qui est le premier des directeurs, démissionne. Donc il est convenu que Talleyrand aille voir Barras avec 3 millions de livres pour acheter la démission de Barras. Et puis ça se passe très bien puisqu'ils sont bien copains avec Barras, donc Barras va démissionner sans histoire et du coup ben, Talleyrand va garder les 3 millions. Hein. Ben oui, il a des frais. Ben voilà. Il y en a qui disent qu'il ne les a pas donnés. Non, Varas ne les a pas réclamés. Nuance. Enfin. Alors voilà, c'est le consulat. Alors il y a trois consuls. Alors, dans l'ordre d'apparition à l'écran, Cambacérès, Bonaparte, qui est le premier consul, et Lebrun. Alors, Talleyrand va les surnommer hic, ec, hoc. C'est du latin. Alors, hic, ça veut dire celui-là, Bonaparte. Ec, celle-là. Oui, parce que Cambacérès ne s'intéresse pas beaucoup aux dames. Et donc, Lebrun, qui est complètement un personnage neutre, insipide, etc., va être surnommé Hoc, ça veut dire ça. Celui-ci, celle-là et ça. Voilà. Bon, un mot de Talleyrand au sujet de Cambacérès, je crois que c'est avec Metternich, Metternich qui lui dit, mais monsieur Talleyrand, votre consul, ce ne serait pas une tante par hasard? Et Talleyrand lui dit, mais une tante, vous voulez rire, c'est un bivouac. Et aujourd'hui, on dirait un camping, mais c'est moins drôle. Alors, tous les pouvoirs sont entre les mains du premier consul de Bonaparte. Et il est convenu que, alors, Talleyrand redevient ministre des Affaires étrangères, il est convenu que tout ce qui est les affaires étrangères dépendent directement du premier consul. Donc Bonaparte et Talleyrand. Talleyrand travaille directement avec Bonaparte. Et on peut dire que dans le consulat, le deuxième personnage du consulat, ce n'est pas Cambacérès, c'est Talleyrand. Le Bonaparte s'entend très très bien avec Talleyrand et il rentre tout à fait dans les vues de Talleyrand. Quelles sont les vues de Talleyrand ? Il y a eu la Révolution. Les aristocrates se sont enfuis, ont levé les nations étrangères contre la Révolution française. Il y a eu des tas de batailles, Valmy, Jemappes, etc., etc. La France s'est un petit peu agrandie, d'ailleurs, à l'époque de la Révolution française, parce que les armées françaises étaient de qualité. Parce que c'était une armée de conscription, c'était une armée de Français voulant défendre leur pays. Hein? Voilà. Et d'ailleurs, il y avait eu toute une campagne de conscription. C'était armée par armée. Et par exemple, l'armée du Rhin avait lancé une campagne de conscription, donc dans la région de Strasbourg. Et un jeune capitaine qui s'appelait Rouget de Lisle a écrit une musique dont les paroles ne sont ni plus ni moins que le texte qui était sur l'affiche de la conscription pour l'armée du Rhin, hein, cette fameuse Marseillaise que l'on chante aujourd'hui. Et les autres, c'est des armées professionnelles. C'est pour ça qu'elles n'ont pas beaucoup résisté. Peut-être que les Français étaient moins entraînés, moins professionnels, mais ils avaient plus de niaque pour parler le français d'aujourd'hui. Et donc Talleyrand dit, voilà, la Révolution a bouleversé l'Europe, il est temps de faire la paix et de faire une paix générale en Europe. Eh bien, Bonaparte dit oui. Et donc, il va y avoir tout un balai, diplomatique, pour faire la paix. Alors, il va y avoir, comme ce sont avec différents États, il va y avoir différents traités de paix avec différents pays. Il y en a quand même deux qui font un petit peu grise mine, c'est la Grande-Bretagne, on ne sait pas pourquoi, et l'Autriche qui refuse la réconciliation, mais les autres sont d'accord. Alors, il va y avoir une paix avec la Russie, c'est une paix avec la Russie. Ensuite, le traité de Morfontaine, très important, va normaliser les relations avec les États-Unis. Finalement, il y aura la victoire de Marengo, qui est sur le pot, comme chacun sait, et c'est là où on invente un bœuf. Un veau. Oui, mais ce veau a fait un bœuf. C'est pour ça. Et donc, il y aura le traité de Lunéville avec la paix avec l'Autriche. Alors, officiellement, ça se passe loin de Talleyrand. puisque c'est le frère de Napoléon, qui s'appelle Joseph Bonaparte, qui est officiellement chargé de négocier. Mais en réalité, Talleyrand est toujours présent par derrière. Et Talleyrand est ravi parce que ça amène toute une marche de paix vers l'Europe, en Europe, et tout ça amène un autre visage de l'Europe vis-à-vis de la France. Alors voilà, en 1801, le nouveau visage qu'a la France. Alors, ben voilà, la France est un petit peu agrandie, regardez tout ça. Hein. Aujourd'hui, on dirait que c'est la Belgique, là, ça peut être l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et que Aix-la-Chapelle est en France. Mayence est en France, voilà, ça va ici à Gand, vous voyez, tout ça, ça fait partie de la France de 1801, à la suite de tous ces traités. Tout ça, ça a été conquis par les armées de la Révolution. Donc tous les traités sont en train de figer les conquêtes révolutionnaires, et puis on n'en parle plus. Hein, voilà. D'autant plus que tout ça, ça a été pris sur des petites entités qui sont négligeable à l'époque. Hein. Ce n'est ni l'Angleterre, ni l'Autriche, ni la Russie, ni la Prusse. Voilà. Il vaut mieux être à l'époque un grand qu'un petit. Alors voilà notre France de 1801. Parallèlement à ça, il faut faire également la paix avec l'Église. L'Église qui a quand même été secouée par la constitution civile du clergé. Donc Talleyrand va négocier. Alors officiellement, c'est Joseph Bonaparte, mais en réalité, c'est Talleyrand qui négocie avec Rome un concordat qui sera signé le 15 juillet 1801. Ce concordat institue la liberté de culte en France. Ça veut dire, même si l'Église catholique est la religion principale, ce n'est pas la religion unique. Liberté de culte, de tous les cultes, qu'ils soient protestants, juifs. À l'époque, c'est essentiellement protestants, juifs et catholiques. Les relations donc sont apaisées avec l'Église. Les évêques ne sont plus élus, mais seront nommés par le gouvernement. Autrefois, c'était par le roi, mais l'institution apostolique sera donnée, conférée par le pape, comme c'était auparavant. Les biens confisqués à l'Église ne seront pas rendus. En revanche, les édifices de culte seront affectés à la disposition des évêques, comme c'est aujourd'hui. L'Église de France n'est pas propriétaire des lieux de culte, mais c'est soit l'État pour les cathédrales, soit les villes pour les paroisses, et l'Église est affectataire des lieux. C'est pour ça que vous pouvez visiter une église sans avoir à payer un droit d'entrée, puisque c'est un bien public que vous financez avec vos impôts. Les clercs sont rémunérés en France. En revanche, pour limiter les frais, on va faire encore un peu moins de diocèses. Donc, vous vous souvenez, il y avait 83 diocèses de la vieille France. On passe maintenant à la France de 1801. Et en tout, 59 diocèses et 10 provinces ecclésiastiques. Alors, vous voyez, par exemple, Autun, l'évêque d'Autun est également l'évêque de Nevers. Vous voyez, par exemple, ici. L'évêque de Troyes est également l'évêque de Sens et d'Auxerre. Hein. L'évêque de Dijon est également l'évêque de Langres, et ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup d'évêchés que 59. Alors tout ça, ça va bien, le Rome est content, le pape va rentrer à Rome d'ailleurs. Il est tellement content que le pape Pie VII, puisque Pie VI n'est plus là, Pie VII va séculariser Talleyrand par un bref du 29 juin 1802. Talleyrand n'est plus un clerc, il redevient laïc. Et Pie VII a eu ce mot en signant le bref, « Ah, monsieur de Talleyrand, c'est un filou, mais je l'aime tellement. » Et voilà, notre Talleyrand rendu à la vie laïque, c'est pratique, parce que comme ça, il va pouvoir se marier. Ah oui, Bonaparte disait qu'un ministre des Affaires étrangères ne peut pas vivre en concubinage. À l'époque, il fréquentait une dame qui s'appelait Madame Grand, et donc il va épouser Madame Grand. Oui, il ne pouvait pas se marier, il était évêque. Mais après son bref de sécularisation, il peut se marier et il épouse Madame Grand. Ah, ça, on va arriver donc à la paix d'Amiens. Il y a encore la Grande-Bretagne qui n'est toujours pas rentrée dans le bon esprit. Et grâce au traité d'Amiens, il va y avoir... Alors, le traité d'Amiens est d'une part avec le Royaume-Uni, d'autre part avec la France, l'Espagne et la République batave, on dirait aujourd'hui la Hollande, hein, qui n'est pas une royauté à l'époque, mais une république. Et il va y avoir une paix qui est traitée. En particulier, on précise les possessions coloniales entre les différentes puissances signataires. C'est pour ça que la Hollande est associée, hein, puisque il y a l'Indonésie, en Inde, il y a des tissus qui viennent de là, Madras, etc. Tout ça sont des possessions néerlandaises. Vous voyez que l'Espagne, avec donc toute l'Amérique du Sud, etc. C'est surtout ce traité d'Amiens et pour normaliser les relations commerciales. Maritime, disons. Et avec ce traité d'Amiens, tous les traités sont signés avec les puissances importantes. Il va y avoir quelques petits traités annexes, le traité de Bâle avec l'Espagne, qui va céder un grand territoire qu'elle possédait à côté des États-Unis, qu'on appelle la Louisiane, qui montait jusqu'au Montana. On dit que la Louisiane était française, elle ne l'a pas été très longtemps, hein, puisque, vous voyez, c'est en 1803 que la Louisiane devient française, et puis peu de temps après, Bonaparte va la céder aux États-Unis, la vendre aux États-Unis, mais les États-Unis ne vont jamais payer. Donc, la céder, quoi. Et il va y avoir une grande consulte à Lyon avec tous les petits États d'Italie, et ça va donner donc la République cisalpine, qui deviendra plus tard le Royaume d'Italie. Et puis, il y a surtout l'acte de médiation par lequel la France a largement contribué à instituer la Fédération Suisse, qu'on appelle aujourd'hui la Confédération Helvétique. Et oui, la Suisse naît officiellement à ce moment-là. Voilà, nous sommes à la fin de 1803, la paix est partout en Europe. La France, qui a été au banc des nations pendant toute la période révolutionnaire, devient le faiseur de paix de l'Europe. La France est à son apogée. Le monde entier ne voit que par la France. Un dénommé Beethoven va écrire sa troisième symphonie, l'héroïque, tout ça pour célébrer tout ceci. C'est la France est aimée de tous. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter parce que Bonaparte a envie de devenir Napoléon et que, ma foi, il ne veut pas se contenter d'être le premier consul d'un pays en paix, avec autour de lui des nations en paix. Il veut prendre un peu plus de pouvoir, un peu plus d'expansion, un peu plus de prestige et d'autorité. Et il va commencer tout de suite... pas respecter les traités. Par exemple, le traité de Lunéville, restituer le Piémont à la Sardaigne, eh ben non. On garde le Piémont. Et d'ailleurs, c'est même incorporé au département français. On va faire du Piémont 6 départements, 6 alpas. Voilà. Et puis, ça va servir, donc ce non-respect du traité de Lunéville, ça va servir à la Grande-Bretagne. Oui, ça va vite, hein, puisqu'on est le 1803. Il y a un nouveau Premier ministre, William Pitt le Jeune, qui se sert de ce prétexte pour réouvrir les hostilités et ouvrir un conflit qui va durer jusqu'à la fin de Napoléon en 1815. Voilà. Pendant ce temps-là, Talleyrand va être nommé grand chambellan. Comme ça lui a rapporté un petit peu de sous, toutes ses activités, l'instigation de Bonaparte, l'aide pécuniaire de Bonaparte, il va acheter le château de Valençay, donc il a l'hôtel de Matignon à Paris, et puis sa résidence secondaire, le château de Valençay. Voilà, voilà. Et donc, Talleyrand va préparer le sacre de Napoléon. Alors la photo est un petit peu sombre, il est là, notre grand chambellan. Voilà, bien placé pour voir le sacre. Alors là, vous voyez que Napoléon est en train de se couronner lui-même. Là, je vais faire un tout petit aparté. Vous avez tous en tête le sacre de Charlemagne, hein, le 25 décembre 800. À l'époque, enfin, dans l'Empire romain, on devenait empereur par acclamation du peuple. Et après, quelqu'un du peuple prenait la couronne et au nom du peuple couronnait l'empereur. Après Constantin, quand l'Église est là, le couronnement se fait en face l'évêque, donc le patriarche de Constantinople à l'époque. L'Église est là pour comme témoin des choses. Mais l'élection, comme le couronnement, vient du peuple. Pour le sacre de Charlemagne, le pape, pendant que Charlemagne était en prière, le pape est subrepticement arrivé derrière Charlemagne et lui a posé la couronne, avant l'acclamation du peuple, etc. Ce faisant, c'était l'Église qui instituait l'Empire, donc l'Église au-dessus de la politique. Et Charlemagne l'avait très très mal vécu, et ce sera l'ancêtre de ce qui sera les sacres des rois de France dont nous avons parlé dans une autre conférence. Napoléon, il connaît cette histoire. Et donc, Pie VII est présent, là, ici, mais ce n'est pas Pie VII qui va couronner Napoléon, c'est Napoléon qui va se couronner lui-même, et ce faisant, il n'est pas soumis à l'autorité de l'Église. Alors, il y a des gens qui disent « Oh oui, ah, cet orgueil de Napoléon qui s'est couronné lui-même, etc. » C'est pas de l'orgueil, c'est un acte politique pour montrer que le politique est supérieur à la religion et non pas l'inverse. Voilà. Bon, ben, Napoléon, il veut être tranquille. Il veut pas avoir de personnes qui partagent sa gloire. Donc il va faire éliminer tous les gens d'importance de l'époque qui pourraient lui faire de l'ombre, en particulier les généraux Dumouriez, Pichegru et Moreau. Et puis aussi, bon, il y a toujours le risque de voir revenir les Bourbons. Talleyrand conseille à Bonaparte, à Napoléon, de faire arrêter le duc d'Enghien. Bon, ça ira un petit peu plus que ce qu'avait demandé Talleyrand, puisque le duc d'Enghien va être assassiné dans les fossés de Vincennes. Et ça, cet acte-là, c'est très, 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 très mal vécu par les cours européennes. Et à partir de ce moment-là, l'idée de l'Europe vis-à-vis de la France change et Napoléon devient le tyran. D'autant plus que la fameuse République cisalpine, Bonaparte l'annexe, il crée le royaume de Rome au profit de son frère, hein. Voilà, donc on crée le royaume d'Italie. Il annexe Gênes et Luc, qui étaient pourtant des puissances alliées à la France. Et puis, il décide d'aller calmer un petit peu les Anglais. Et il amène sa grande armée à Boulogne pour faire un débarquement pour aller envahir l'Angleterre. Mais le reste de l'Europe, choqué par l'assassinat du duc d'Enghien, commence à se soulever, en particulier les Russes et les Autrichiens, qui rentrent en conflit avec Napoléon. Donc Napoléon est obligé de quitter Boulogne, jamais il n'y aura l'invasion de la Grande-Bretagne, et il va y avoir quelques bagarres, mais alors Bonaparte, il est astucieux, il ne va jamais attaquer tout le monde en face, il va les attaquer les uns après les autres. L'armée de Napoléon, la grande armée, c'est également une armée de conscription, c'est issu de l'armée révolutionnaire. Mais depuis ces années-là, les hommes se sont formés. Alors que pour les autres puissances, l'Autriche, la Prusse, etc., ce sont des armées, on dirait aujourd'hui professionnelles, mais c'est surtout de mercenaires, hein, des gens qui ne sont pas forcément des Autrichiens, des Prussiens ou des Russes. Et même toute la quasi-totalité des batailles que va livrer Napoléon les Français sont toujours minoritaires en nombre, mais ont la victoire parce qu'il y a une organisation, une technique, il y a une armée. C'est un petit peu Azincourt inversé, si vous voulez. En plus, Napoléon a des canons, de l'artillerie, de l'armement, tout un système d'intendance qui suit. Hein, quand l'intendance suit, le reste suit aussi, etc., etc. C'est la création des haras nationaux, Cluny, hein, etc., etc. Voilà. Donc, pas mal de victoires qui vont masquer le désastre de Trafalgar. Il faut aller à Londres pour trouver une place ou une gare, n'est-ce pas, qui porte ce nom. Ça. Tout le monde a oublié Trafalgar. C'est un mauvais coup. En revanche, il y a Austerlitz, le 2 décembre, jour anniversaire du sacre, avec un beau soleil. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici, on montre le soleil qui arrive là, mais le ciel était comme ceci. Enfin, maintenant, il y a des bouquins qui vous expliquent que la météo y est pour beaucoup dans les victoires, que c'est parce qu'il y a eu le soleil à Austerlitz que Napoléon a vaincu, et c'est parce qu'il pleuvait à Waterloo qu'il a perdu. Voilà, mais il faut dire que le temps est le même pour les adversaires. Enfin bon, je sais pas si M. Baudin a bien pensé que quand il y en a deux, il pleut pour tout le monde. Voilà, ou quand il y a du soleil, il y a du soleil pour tous. Voilà. Bref, ça va amener après au traité de Presbourg entre la France et l'Autriche. L'Autriche va perdre la Vénétie, le Bade, la Bavière, le Württemberg, qui vont devenir des royaumes indépendants. Tout ça à l'instigation de Talleyrand. Parce que ces royaumes, regardez où sont placés le Bade, le Württemberg, la Vénétie, l'Autriche, etc. Tout ça, c'est aux frontières. Et dans l'idée de Talleyrand, c'est de mettre des coussins, hein, des oreillers, entre les puissances ennemies et la France. Et il y aura des caricatures à l'époque qui montrent Talleyrand en faiseur de roi. Bon, remerciement de ses bons et loyaux services, Talleyrand est fait prince de Bénévent. Alors, nous sommes dans le sud de la Botte, hein, la principauté de Bénévent, appartenait au pape, hein, c'est pas grave, on va confisquer ça au pape, et puis ça va devenir le titre de Talleyrand, donc voilà. À côté de cela, il y a le royaume de Naples et de Sicile, qui est dirigé par Ferdinand IV. Napoléon va le déposer, et va donc le royaume de Naples va être confié à Murat, qui est l'époux de sa sœur, hein, l'époux de Caroline. Napoléon aussi, il ne veut plus voir de république en Europe. Il trouve que c'est plus facile de négocier avec des royaumes, parce qu'il y a un roi qui est le patron, on fait des négociations face à face, et puis c'est terminé. Tandis qu'avec les républiques, il faut après, souvenez-vous, prenons par exemple qu'il y a un référendum, que les Français disent non, puis après, ben, finalement, on va signer oui, enfin, ça pose après des conflits, etc. Donc Bonaparte veut supprimer les républiques, donc il va envahir la République batave, et il va l'annexer à la France, hein, donc la Hollande devient française. C'est pratique parce que c'est les mêmes couleurs de drapeau, pas dans le même sens. Ensuite, Napoléon va décider que toutes ces petites républiques, ces petits États allemands qui ne sont pas, qui ont un ventre mou dans l'Europe, il va les agréger. 13 États allemands sont agrégés pour faire la Confédération du Rhin, et qui va donc s'interposer entre la Prusse et le Royaume de France. Encore quelque chose qui vient. Alors, bon. Tout ça en Grande-Bretagne, c'est mal vu, sauf que Pitt va disparaître et Fox arrive, et il va y avoir un traité de paix entre la France et la Grande-Bretagne. Tout va bien, et c'est là que Napoléon va faire une grosse bêtise. Comme il est très content que les Anglais se soient calmés et aient demandé la paix, il va offrir le Hanovre à la Grande-Bretagne. Oui, ben, ça pose un problème, c'est que le Hanovre, il n'appartient pas à la France. Il appartient à la Prusse. Ben, la Prusse qui, jusque-là, était restée en spectateur de toutes les histoires. Hein. les histoires jusqu'à présent, c'est la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie. Et la Prusse, est un État encore relativement récent. Ça a été fondé à l'époque de Louis XIV, pas avant. La Prusse est très très récente. Et puis d'ailleurs, le roi de Prusse avait des armées de mercenaires, bien entendu, mais le roi de Prusse oubliait de payer ses soldats. D'où l'expression « travailler pour le roi de Prusse ». Voilà. Et donc, l'histoire du Hanovre, ça fait rentrer la Prusse en guerre. Ah, c'est là où ça commence à chauffer dur. La Prusse entre en guerre. Il ne faut pas oublier que quand c'est fondé la Prusse par le père de Frédéric II, donc Frédéric Ier, la Prusse est fondée comme un État militaire. Alors même si ce sont des armées de mercenaires, c'est des armées qui sont entraînées, il y a des casernes, il y a des manœuvres, etc., etc. Et ça va amener à des batailles, la bataille d'Iéna, mais néanmoins la Prusse va la perdre, et Napoléon va rentrer dans la capitale de la Prusse, qui est Berlin. Il se trouve que les Prussiens, que les Berlinois, voient en Napoléon un libérateur. Il est accueilli comme le Messie. Mais Napoléon, au lieu de faire profil bas, de se montrer en vainqueur, magnanime, etc., non, il va vouloir se montrer plus fort que les autres, comme le roi qui s'appelle Frédéric Guillaume III et son épouse la reine Louise sont partis se mettre au vert quelque part, il va s'installer au palais royal, l'air de dire « c'est moi qui prends la place ». Et puis, surtout, donc, il est accompagné de Vivant Denon. Je ne sais pas si vous connaissez Vivant Denon. Il est né à Chalon-sur-Saône, paraît-il. C'est lui qui a fondé le musée Napoléon, qu'on appelle aujourd'hui le musée du Louvre. Et Vivant Denon va suggérer à Napoléon qu'on pourrait enrichir les collections du Louvre avec quelques trésors qui sont en Prusse, en particulier dans la ville de Dresde. Mais aussi, il y a le symbole de l'unité prussienne et une porte à l'entrée de Berlin qui s'appelle la porte Brandebourg, qui est surmontée par un quadrige. Alors à l'époque, il n'y a pas ça. Ici, c'est simplement une lance qui se termine, vous voyez ici, on la voit à peine, par simplement une pique, c'est tout, et qui est le symbole de la paix, de la réconciliation prussienne, puisque la Prusse, c'est quand même un agglomérat de plusieurs petits États. Donc on démonte ce quadrige qui est copié sur les chevaux de Saint-Marc. On le démonte, on le met en caisse et on l'envoie à Paris. Alors ça ne plaît pas du tout aux Berlinois et aux Prussiens qui là se sentent humiliés, et de voir Napoléon libérateur, ça demande là aussi à le transformer en tyran et en oppresseur. Alors pour la petite histoire, Le quadrige de la porte de Brandebourg va arriver à Paris, va rester 8 ans sans jamais sortir de sa caisse. Et c'est quand en 1814, les Prussiens seront dans Paris, qu'on va renvoyer le quadrige à Berlin. Et entre-temps, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, a créé l'ordre de la Croix de Fer. Et on va rehausser la lance de la paix par la Croix de Fer et l'aigle prussien. Et ça va devenir le symbole non plus de la paix, mais de la victoire. Et ce symbole change complètement de sens à partir de ce moment-là. Ah oui, j'allais oublier, en plus quand il est à Berlin, alors qu'il a vraiment fait des choses qui me sont inacceptables, Bonaparte se fait couronner roi, prince de la paix. Alors ça passe pas du tout. Et pour les Prussiens, la France devient l'ennemi à combattre. Alors, tout ça, ça va bien, à part que, bon, il faudrait peut-être un peu se mettre en bon terme avec la Russie. Talleyrand, qui s'entend très 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 bien avec le tsar Alexandre Ier, obtient de Bonaparte qu'on ait des négociations de paix avec la Russie, qu'on puisse peut-être un peu calmer les choses. Après, on fera des traités avec la Prusse et l'Autriche, mais qu'il faudra être gentil et non pas humilier ces États. Et avant, il faut se mettre en bonne grâce avec la Russie. Donc, Napoléon accepte de rencontrer le tsar, Alexandre Ier, sur le Niémen, qui est la frontière entre la Prusse et la Russie, et pour être en territoire neutre, on met, voyez-vous, un joli radeau au milieu du Niémen, et c'est l'entretien du Niémen, suivi donc d'un traité secret entre la Russie et la France. La Russie, elle a envie de s'agrandir un petit peu aux dépens de la Suède, aux dépens de l'Empire ottoman, d'une part. D'autre part, Napoléon a institué le blocus continental pour essayer d'affamer l'Angleterre. Et en échange donc de la paix avec la Russie et de l'adhésion de la Russie au blocus continental, Napoléon accepte de fermer les yeux sur l'extension de la Russie, sur la Finlande et sur les territoires donc de la Moravie, etc., aux dépens des Ottomans. Donc on signe ce traité secret. Et après, il va y avoir les traités avec la Prusse et avec l'Autriche. Alors, pour la Prusse, ça se passe très très mal, puisque par le traité, donc le deuxième traité de Tilsit, la Prusse perd la moitié de ses territoires. La Pologne devient indépendante et est érigée en duché. Et puis, tous les territoires à l'ouest de l'Elbe, c'est-à-dire à l'ouest de l'Allemagne d'aujourd'hui, vont passer au royaume de Westphalie, dont Jérôme Bonaparte était le roi. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est vu par les Prussiens et les Russes d'ailleurs comme un acte inique et une humiliation nationale. Là, Talleyrand est outré et c'est là qu'il commence à... il ne le fait pas encore, mais il envisage sérieusement de quitter Napoléon en disant il est devenu ingérable et puis il ne respecte pas l'Europe. Vous avez l'idée de toutes les puissances équilibrées en Europe, ça ne va pas du tout dans le sens de Talleyrand. Pendant ce temps-là, Napoléon il n'est pas calmé, hein. Ce serait trop simple. Il y a l'Espagne qui est alliée avec la France, qui est occupée par un Bourbon. Ah ben oui, Napoléon se dit, s'il y a encore des Bourbons, ils risquent de vouloir mon trône, donc je vais éliminer les Bourbons. Donc la meilleure chose, c'est d'envahir l'Espagne. Oui, mais c'est un pays allié, on va quand même pas envahir un pays allié. Ça se fait pas, même Napoléon. En revanche, le Portugal est allié avec la Grande-Bretagne. Donc le Portugal est ennemi. Donc Napoléon obtient le droit de traverser avec son armée en Espagne pour aller attaquer le Portugal. Et une fois qu'il est en Espagne, il y reste. Il fait prisonnier le roi Ferdinand VII. Il l'envoie à Bayonne. À Bayonne, avec les infants d'Espagne, ils sont faits prisonniers et ils sont envoyés en détention à Valençay. Valençay, ça vous dit quelque chose? Le château de Talleyrand. Et pendant 7 ans, Talleyrand va être le geôlier du roi et des infants d'Espagne. Mais il y a des notes de frais. Oui. En Espagne, ça ne se passe pas pour Napoléon comme il le souhaite, puisque là, les Espagnols se révoltent. Il y a une résistance un peu similaire à ce que connaîtra la France en 40-44. Il y a une véritable résistance espagnole qui va faire pique-pendre aux armées napoléoniennes. Bon, pendant ce temps-là, Talleyrand démissionne parce que là, l'affaire d'Espagne a été trop loin. Parce que là, en plus, c'est une trahison. Hein, avoir tendu un piège à Ferdinand VII et de l'avoir fait arrêter, ce n'est pas digne d'un gentilhomme. Talleyrand a démissionné. C'est M. de Champagny qui est nommé ministre des Affaires étrangères. Mais comme Napoléon veut revoir le traité de Tilsit avec la Russie, il veut revoir le tsar Alexandre Ier à Erfurt et il demande à Talleyrand quand même d'organiser la rencontre d'Erfurt qu'il veut somptueuse. Il veut impressionner le tsar Alexandre Ier. Donc on va faire venir de Paris... À l'époque, oui, j'ai oublié de préciser, mais ça va de soi, que l'Europe tout entière parle français. Hein, Il n'y a pas d'autre langue utilisée en Europe que le français. Donc, à Erfurt, on fait venir tous les actrices et acteurs de la comédie française, Talma, etc., Talien, et on va donner tous les soirs des spectacles qui vont être choisis par Talleyrand en fonction des négociations, et à chaque fois pour mettre en relief par Corneille, par Racine, etc., l'état du monde de Louis XIV avec l'état du monde de Napoléon et d'Alexandre. Et puis on donne des dîners, etc. Mais, c'est que Talleyrand n'est plus ministre, et surtout il n'est plus d'accord avec Napoléon. En revanche, il est très copain, très copain avec Alexandre Ier. Et discrètement, tous les soirs, chez Madame de la Tour, ah, les dames de la Tour, faut s'en méfier, il y a des rencontres discrètes entre Talleyrand et Alexandre Ier. Et ce sont tous les soirs les vraies négociations, et Napoléon se fait berner. Ce n'est qu'à Sainte-Hélène que Napoléon comprendra que Talleyrand s'était joué de lui à Erfurt. Alors on va signer le traité, et puis, donc Talleyrand n'est pas signataire puisqu'il n'est pas ministre, et puis après ça, Napoléon retourne essayer de mater la résistance espagnole, et pendant ce temps-là, Talleyrand rentre à Paris, où il va donner une grande réception en honneur de Joseph Fouché, qui est donc le ministre de l'Intérieur. Et alors, ça se passe dans une grande réception mondaine. Ça a été traduit dans une pièce de théâtre qu'on a appelée le dîner.
Hein?
Le souper. C'est vrai que maintenant on ne dit plus on soupe, n'est-ce pas? Et donc, ce qui nous apparaît en pièce de théâtre comme étant un souper est en réalité une grande réception. Et donc, dans cette grande réception, avec Fouché et puis Murat, hein, on commence à raconter que Napoléon est mort. Oui, pourquoi pas? Qu'il faut instituer une régence, que la gérance va être faite par Joséphine et assistée par Murat, etc. Enfin, il y a une petite conspiration, mais évidemment, comme on n'ouvre pas les lettres, Napoléon est au courant, il rentre en vitesse à Paris, il convoque un conseil restreint. Alors, Talleyrand n'est plus ministre, mais il est toujours grand chambellan. Donc, il a ses entrées au palais des Tuileries. Et il y a une altercation assez violente entre Napoléon, et c'est là où est sorti le célèbre mot « Monsieur de Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bain de soie ». À l'issue de cela, grand chambellan Talleyrand ne lit plus, il reste impassible à toutes les diatribes, et quand il sort, il lance « Quel dommage, messieurs, qu'un aussi grand homme ait été si mal élevé ». L'Europe comprend que Napoléon n'a plus le soutien de tous les Français, et en particulier que Talleyrand est maintenant ouvertement au service de l'Autriche et même de la Russie, enfin qu'il est au service des puissances alliées. Talleyrand, ben, pendant ce temps-là, il a des petits soucis financiers et matrimoniaux, ça ne va pas très bien avec Madame Grand, ça, c'est devenu petit. Et il est complètement fâché avec Napoléon, mais il se voit quand même. C'est le chaud et le froid, c'est le yin et le yang, voilà, il y a les relations. Et puis, ils ont une discussion comme ça, sympathique, autour d'un café. « Oh là là, moi, ça va pas avec Madame Grand, moi, ça va pas avec Joséphine, elle a pas d'enfant, etc. On pourrait peut-être divorcer et se remarier. » Oui, une bonne idée. Et Napoléon dit « J'aimerais épouser la sœur d'Alexandre Ier. » Ça, il ne fallait pas dire ça à Talleyrand, il va se débrouiller pour que le tsar refuse. Et en revanche, il va faire épouser la fille de l'empereur, François II, il va faire épouser Marie-Louise. Voilà. En remerciement de ses bons services, Napoléon va acheter l'hôtel de Matignon, un bon prix, et après ça deviendra la résidence du Premier ministre par la suite. Et Talleyrand peut régler toutes ses dettes. Oui, parce qu'il avait fait de la spéculation foncière par une banque. La banque avait fait faillite, il avait perdu quelques millions. Il y avait déjà les problèmes des subprimes à l'époque. Hein, voilà. Mais grâce à la vente de l'hôtel de Matignon, plus de soucis financiers, il reste même assez pour acheter l'hôtel Saint-Florentin qui, vous savez, derrière la place de la Concorde, derrière le ministère de la Marine. Hein, voilà. Alors, je vois que le temps passe, mais bon. Oui. On n'est pas encore au congrès de Vienne. Hein. Est-ce qu'on garde pour la deuxième partie?
Non, allez-y, on
ne peut pas. Bon. Non, parce que là, je me suis permis d'écrire les propos même de Talleyrand, parce qu'ils sont paradigmatiques de la pensée de Talleyrand. Le chef-d'œuvre politique à cette époque aurait été d'isoler assez la Grande-Bretagne pour la laisser sans lien quelconque avec le continent et sans des rapports nouveaux avec les colonies. Oui, parce que avec l'histoire de l'Espagne, eh bien, les colonies espagnoles, bon, le Chili, l'Argentine, le Guatemala, le Costa Rica, etc., étaient passées sous domination britannique, hein, bien entendu. Et ouvrir le continent et les colonies d'Amérique. Napoléon est le premier et le seul qui ait pu donner à l'Europe un équilibre réel qu'elle cherche en vain depuis plusieurs siècles et dont elle est aujourd'hui plus éloignée que jamais. Il fallait pour cela, premièrement, qu'appeler à l'unité de l'Italie en y transférant la maison de Bavière. Voyez, l'Autriche, la Vénétie, le Tyrol, parce que la Bavière et le Tyrol, ça se touche, voilà. Et de faire donc un État ici. De partager l'Allemagne entre la maison d'Autriche, qui se serait étendue jusqu'aux bouches du Danube, et la maison de Brandebourg, autrement dit la Prusse, qu'on aurait agrandie. C'est-à-dire, pour simplifier, tout le nord de l'Europe, la Prusse, le milieu de l'Europe jusqu'à la mer Noire, l'Autriche, le sud de l'Europe, l'Italie, la France, la Russie, la Grande-Bretagne. Et on a une Europe équilibrée. Un équilibre qui eût rendu la guerre presque impossible, une organisation convenable eût été chez tous les peuples la civilisation au degré le plus élevé qu'elle puisse atteindre. C'est parce que la force morale lui a manqué à Napoléon qu'il a fait le malheur de l'Europe et le sien propre. Dans le temps où Napoléon savait entendre la vérité, je la lui disais loyalement. Je lui ai dit même plus tard, lorsqu'il fallait employer des ménagements pour la lui faire arriver, et la disgrâce que m'a value ma franchise me justifie devant ma conscience de m'être séparé de sa politique d'abord, puis de sa personne, quand il était arrivé au point de mettre en péril la destinée de ma patrie. Rappelez-vous l'exergue de la conférence. Alors je n'ai pas pu résister de mettre cette photo pour ceux qui ont visité l'exposition Talleyrand à Autun. Vous reconnaissez le joli tapis à Autun. C'est une photo qui vient donc de l'exposition d'Autun. C'est le bureau de Talleyrand. Ce bureau de Talleyrand, savez-vous où il se trouve aujourd'hui et à quoi il sert? Il se trouve aujourd'hui à Versailles, au congrès de Versailles. En ce moment, le congrès est en réunion aujourd'hui, hein, depuis maintenant cinq... Ah non, en réunion dans une minute. Et à chaque fois qu'il y a une modification de la Constitution, c'est sur ce bureau qu'est signée la Constitution, les modifications de la Constitution. C'est un bureau qui est donc toujours en activité. Eh oui, à la suite de tous ces avatars, eh bien, l'Europe tout entière va se coaliser. Jusque-là, Napoléon s'était attaqué à la Prusse, à l'Autriche, à la Russie, etc. Là, maintenant, il va avoir tout le monde contre lui, l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, et même les autres. Et puis, les années ont passé, les autres, ils sont quand même pas aussi bêtes que cela. De toutes les piles qu'ils ont prises à Iéna, Wagram, Austerlitz, etc., ils en ont pris les conséquences. Et les armées alliées ne sont plus du tout celles qu'avaient connues Bonaparte ou Napoléon à ses débuts. Et donc, il va y avoir une grande bataille à Leipzig, où là, ça ne va pas bien se dérouler pour Napoléon. C'est un échec. Alors là, je n'ai pas pu résister à vous montrer cette caricature qui montre Napoléon en casse-noix, qui n'arrive pas justement à casser Leipzig. Et c'est là où Talleyrand dit, ça y est, c'est le commencement de la fin. Il faut dire que l'histoire de la Russie avait complètement délégitimisé Napoléon. L'Europe était complètement contre. Et donc, c'est le projet de Wellington, n'est-ce pas, de regrouper tout le monde, y compris, regardez, la Suède de Bernadotte. Bernadotte était devenu, par la grâce de Napoléon, roi de Suède. Mais il est devenu vraiment roi de Suède. Et après, la Suède est rentrée dans l'alliance contre Napoléon. Entre ça, vous avez donc le Bourbier espagnol. Et ça va, qui va amener, parce que Talleyrand dit quand même, qu'il gardait quand même des petites relations, à Napoléon, si vous voulez vous occuper des alliés, il faut un petit peu vous débarrasser de l'Espagne. Bon, moi je commence à en avoir assez d'avoir le roi d'Espagne et les enfants au château. On va peut-être faire avalancer un traité et vous allez remettre le roi d'Espagne sur son trône. Et donc Ferdinand VII s'engage à reprendre le trône d'Espagne, mais à ne céder aucun territoire, pensez à toutes les colonies d'Amérique, à l'Angleterre. Voilà, c'est le traité de Valençay. Mais pour autant, il ne quitte pas encore Valençay, ce serait trop beau. Du coup, Napoléon lui propose à nouveau de prendre le ministère des Affaires étrangères. Talleyrand dit non. D'autant plus qu'il commence à s'approcher sérieusement de Louis XVIII. Il avait senti que les choses... Donc c'est la campagne qu'on va appeler la campagne de France. Donc je passe sur tous les détails après ce que le temps passe. Et puis, eh bien, on arrive à fin mars 1814, les alliés rentrent dans Paris, l'impératrice, le roi de Rome, se sauve, et le 31 mars, les alliés rentrent dans Paris. Talleyrand accueille le tsar Alexandre Ier et le loge dans son hôtel particulier de Saint-Florentin. Voilà. Et puis, il propose au tsar et au roi de Prusse de consulter le Sénat pour déposer Napoléon et préparer le retour de Louis XVIII. Le 1er avril, le Sénat élit Talleyrand à la tête d'un gouvernement provisoire. Le lendemain, le Sénat va déchoir l'empereur de son trône. Napoléon résiste quelque peu en voulant négocier par lui-même avec les alliés, ça ne marchera pas. Et finalement, Napoléon va abdiquer le 6 avril 1814. Talleyrand, donc, qui est maintenant le patron, pas pour longtemps, il va être le patron pendant un mois, va prendre quelques mesures propres à rassurer les Français. Alors, je vais vous citer les mesures. Rappelez-vous le début de la conférence et l'enseignement de Madame de Chalais. Voilà les mesures que prend Talleyrand en tant que président du gouvernement provisoire. Il va rendre les conscrits à leur famille. Donc, plus de circonscription, les soldats rentrent chez eux. Il libère tous les prisonniers politiques et les otages. Il échange les prisonniers de guerre. Il rétablit la liberté de circulation des lettres. Donc, les lettres ne sont plus ouvertes. Il facilite le retour du pape à Rome et celui des princes espagnols qui étaient encore bloqués à Valençay à Madrid. Et il rattache les agents de la police générale, on dirait aujourd'hui les CRS, qui étaient très mal vus à l'époque, il va les rattacher directement au préfet. Il va maintenir tous les fonctionnaires à leur poste, à l'exception de deux préfets qui n'étaient pas très fiables, qui vont être limogés. Ensuite, avec le Sénat, il va rédiger une nouvelle constitution instaurant le régime de la monarchie parlementaire bicamérale. Le 11 avril, Napoléon signe le traité de Fontainebleau, où il renonce pour lui et ses successeurs à tout droit sur l'Empire français. En échange de quoi, il devient prince de l'île d'Elbe, avec un revenu de 2 millions de francs, dont la moitié est attribuée à l'impératrice. Le 12 avril, le comte d'Artois, donc le frère de Louis XVIII, le futur Charles X, rentre à Paris et, au nom de son frère, va accepter la nouvelle constitution, mais avec beaucoup de restrictions. Hein. Ce n'est pas approuvé les doigts dans le nez. Et le 14 avril, le Sénat transfère l'autorité du gouvernement provisoire de Talleyrand sur le comte d'Artois. Ce sont les adieux de Napoléon à Fontainebleau et il va y avoir le traité, d'abord une armistice et, dont les conditions sont assez douloureuses et humiliantes puisque la France perd toutes ses conquêtes et doit revenir aux frontières d'avant la Révolution, aux frontières de 1789. Bon, Talleyrand va rencontrer Louis XVIII à Compiègne, mais ça se passe mal. Vous savez, chez les rois et les grands aristocrates, n'est-ce pas, quand vous leur rendez des visites, vous passiez par l'antichambre, et aussi court, aussi long qu'était le temps dans l'antichambre, important ou non, vous étiez. Bon, ben là, avant de voir Louis XVIII, Talleyrand va faire antichambre un bon peu. Ensuite, il rencontre Louis XVIII. Louis XVIII, vous voyez, monsieur de Talleyrand, vos ancêtres sont aussi anciens que les miens, mais les miens sont plus brillants que les vôtres, car s'ils avaient été aussi brillants que les miens, c'est vous qui me diriez de m'asseoir, alors que c'est moi qui vous prie de vous asseoir. Ça commence bien. Ensuite, il faut dire que Louis XVIII n'aime pas Talleyrand parce que c'est un ancien évêque, défroqué, marié, enfin bon, pour un bon catholique comme Louis XVIII, c'est quelque chose d'insupportable. Et puis, il dit à Talleyrand, mais enfin, comment se fait-il que vous ayez pu voir le début et la fin de tant de régimes? Alors, c'est là où Talleyrand lui répond, « Mon Dieu, sire, je n'ai vraiment rien fait pour cela. » C'est quelque chose d'inexplicable que j'ai en moi et qui porte malheur au gouvernement qui me néglige. Oui, c'est rigolo, mais c'est une bonne annonce à Louis XVIII. Vous avez besoin de moi, et si ça se passe mal, c'est vous qui allez en pâtir, c'est pas moi. Hein? Comprenne qui. Alors finalement, Louis XVIII refuse la fameuse constitution sénatoriale pour faire une charte constitutionnelle. Parce que Louis XVIII part du principe. Depuis que mon frère a perdu la tête, c'est moi le roi. Et je suis roi de droit divin. Donc ce n'est pas à mes sujets de m'octroyer, enfin une constitution, c'est à moi de l'octroyer à mes sujets. Et il va faire une charte constitutionnelle dans laquelle il va reprendre en partie les idées de Talleyrand, mais il va mettre aussi les siennes. Alors j'ai mis donc des caractères différents. Les idées de Talleyrand sont la garantie des droits individuels, du droit de propriété, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, de la liberté religieuse, même si l'on reconnaît le catholicisme comme religion d'État. La circonscription est supprimée. La vente des biens nationaux n'est pas remise en cause, car seuls les biens non vendus sont rendus aux anciens émigrés. Donc ça, c'est pour pacifier un petit peu les esprits. La noblesse ancienne est rétablie dans ses titres, mais la noblesse impériale garde les siens. Et toutes les structures administratives mises en place par la Révolution restent en place, donc les départements, etc. En revanche, les idées de Louis XVIII sont les maires, conseillers généraux, conseillers d'adjoncement ne sont plus élus, mais sont nommés par le gouvernement ou les préfets. Tout le pouvoir exécutif appartient au roi, le pouvoir législatif est partagé en deux chambres, la chambre des pairs nommée à vie et héréditairement par le roi, et la chambre des députés des départements élue au suffrage censitaire, la chambre des députés étant renouvelée par cinquième tous les ans, et pouvant être dissoute. Le roi a seul l'initiative des lois, pas le parlement, et le pouvoir judiciaire est confié à des juges nommés par le roi. Donc là, on reprend le pouvoir. Voilà. Oui, XVIII. Alors, Talleyrand, ben, évidemment, ne présidera pas le nouveau gouvernement, puisqu'il est nommé à nouveau ministre des Affaires étrangères. Et c'est une période importante, puisque nous sommes en train de négocier la paix avec les Alliés. Il y avait eu un armistice de signé. Il faut maintenant faire le traité de paix avec le traité de Paris. Alors tout ça s'est préparé par un congrès à Châtillon, qui se passe très mal, puisque la France est dépecée. Mais donc, Talleyrand arrive et va reprendre un petit peu les choses en main. Et finalement, le fameux traité de Paris ramène les frontières de la France, non pas à celles de 89, mais à celles de 92. Ah, c'est quand même un petit peu plus vaste. C'est-à-dire que se conservaient le comtat vénessin, Montbéliard, Mulhouse, Philippeville, Marienbourg, Saint-Louis, Landau, Saarbrück, Annecy, Chambéry. La Grande-Bretagne rend la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Saint-Louis du Sénégal à la France. La principauté de Monaco retrouve son prince, mais sous protectorat français. La principauté de Bénévent est rendue au pape. Pouf. Donc, Talleyrand deviendra simplement prince de Talleyrand, mais il deviendra pair du royaume et chevalier de la Toison d'Or. Le traité de Paris donc règle, disons, le rapport de la France avec les autres, mais pas le problème des autres entre eux. Et donc, il est convenu d'un autre traité qui aura lieu à Vienne. Et donc, tout le monde s'en va pour Vienne pour tenir un congrès, mais sans la France. Pensez bien que ça ne plaît pas à Talleyrand. Alors Talleyrand, il va aller voir Louis XVIII. Il lui fait comprendre que, ma foi, si la France n'est pas présente à Vienne, c'est pas bon pour la France, qu'il faut absolument que Talleyrand aille à Vienne. Pourquoi Talleyrand à Vienne? Parce qu'on va discuter de toute l'organisation de l'Europe qui a été bousculée par des tas de traités dont il a pris part, qu'il connaît tout ça par cœur. Donc si quelqu'un peut discuter avec les uns et les autres, c'est bien lui et personne d'autre. Louis XVIII acquiesce et Talleyrand part à Vienne avec sa nièce, Madame de Courlande, son cuisinier, Monsieur Carême, des artistes, des ceci. Enfin, il part pas seul. Et il arrive à Vienne, on lui fait comprendre que, ma foi, il n'a rien à faire là. Et c'est là qu'il va se payer de culot, va aller voir les uns les autres, il va leur dire, écoutez, c'est bien gentil tout ça, vous êtes alliés. Mais vous êtes alliés contre Napoléon, pas contre la France. Il n'y a plus de Napoléon, il est abdiqué. C'est vous qui avez fait revenir Louis XVIII. Donc le garant de la paix, c'est Louis XVIII. Comme vous n'êtes pas en guerre avec la France et que Napoléon n'est plus là, vous n'avez pas de raison d'exclure la France des négociations. Et youpi, le voilà qui s'installe. Et puis, il va même obtenir que le congrès des quatre qui est passé à cinq soit également agrandi à l'Espagne, au Portugal et à la Suède. Voilà. Et puis aussi, il fait comprendre que discuter tous ensemble comme ça, c'est pas très intelligent, on ne va pas s'entendre, qu'il faut négocier les uns à côté des autres, voilà, et que chez lui c'est très très bien. Et on a parlé du congrès s'amuse, parce que c'est une suite de fêtes ininterrompues. En réalité, c'est à l'occasion des dîners, des fêtes, etc., que l'on discute, et on va arriver donc sur le traité de Vienne. Alors voilà une gravure où on voit Talleyrand ici. Vous voyez que tout le monde est debout, mais lui, il est assis. Hein? Il est installé. Voilà, il est là. Hop là. Alors, le traité de Vienne. Voilà la France. Oui, la France, mais l'Europe surtout. Alors là, cette carte, c'est, on peut dire, quasiment à 100% du Talleyrand. Alors la France a ses frontières de 1792. Donc vous voyez que peu ou prou, c'est la France d'aujourd'hui. Voilà. On va Gênes et le royaume des deux Siciles vont redevenir un seul. Toujours les États pontificaux. La Russie va s'agrandir aux dépens de la Pologne. L'Autriche va s'agrandir également aux dépens de la Pologne, de de la Bohême, de la Silésie, de la Bavière, du Tyrol, la Lombardie-Vénétie, voilà. La Prusse est là, mais va s'associer avec tous les petits États en vert clair pour reformer une confédération germanique. Rappelez-vous un petit peu le propos de Talleyrand qui voulait des masses, etc. Et les Pays-Bas sont agrandis, mais deviennent un royaume avec la partie catholique du Sud, donc qu'on appellerait aujourd'hui la Belgique. Et vous voyez que le Luxembourg est deux fois plus grand qu'aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez une province belge qui s'appelle le Luxembourg. Donc le Luxembourg du Congrès de Vienne, c'est le Luxembourg belge et le Luxembourg actuel. Hein, voilà. En plus, bon, il y a tout des traités avec les différents États sur la restitution des îles, etc. La France perd l'île de France. L'île de France, pas la région actuelle. L'île de France, ça s'appelle maintenant l'île Maurice. Hein, voilà. Mais récupère d'autres positions. Voilà. La mise en place de ce traité de Vienne. Mais pendant qu'il se réunit, Napoléon quitte l'île belge. Débarque à Golfe-Juan et là, on va signer la paix de Vienne le 9 juin 1815 sans aller plus loin dans les négociations. C'est pas achevé, c'est achevé mais pas parachevé. Et puis ça, eh ben ma foi, c'est une autre histoire qu'on verra l'année prochaine.
Donc, préparez vos questions pour l'année prochaine. Voilà. Ouais.